On refait la télé sur RTL. On refait l'invité.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Il a neigé abondamment sur notre région pendant ce week-end et la circulation devient de plus en plus dangereuse. Nous allons voir ensemble les prévisions de la météorologie. Aujourd'hui, après d'importantes chutes de neige,
adorable.
Le temps
c'est vous, ça, Jean-Paul Le Godard.
Voilà. Oui, exactement.
Hein, j'avais la petite chemise à carreaux. Et les, voilà, l'air oui, dans la paperie, dans les phares, tellement que j'avais peur. Oui,
c'est votre toute première télé.
Ma première télé.
C'était le 28 décembre.
J'avais tout appris par cœur, on n'avait pas de prompteur.
Ça ne s'entend pas du tout, on entend juste la ponctuation. On dirait les candidates à Miss France, vous savez.
Oui, mais c'est pareil.
C'était la dernière communication.
28 décembre 1970 sur l'ORTF Auvergne.
Oui, oui.
Ça vous fait quoi, là, quand vous réentendez tout ça?
Elle m'émeut, cette petite.
Eh oui.
Parce qu'elle a sa petite chemise bien fermée, les petits cheveux courts. Et puis quand je vois, je repense à la peur, parce que je m'entraînais sur ma poignée de fenêtre.
Comment
quand on m'avait dit, ben voilà.
C'est-à-dire, assise sur la poignée de fenêtre.
Parler,
c'est pas confortable.
De parler à un objet en ayant l'air naturel. On m'avait dit, donc qu'il fallait que j'aille parler à une caméra, comme si c'était des gens. Donc je regardais ma poignée de fenêtre et je disais bonjour, j'espère que vous allez bien. Je passais mon temps à regarder des trucs et franchement ma poignée de fenêtre, elle en a entendu les bonjours.
Et franchement, c'était parfait.
Et pour faire la météo, regardez par la fenêtre, ça me semble tout indiqué. Et vous disiez qu'en plus le pire à l'époque, c'est que vous ne compreniez pas forcément ce que vous étiez en train de dire.
L'isotherme 0 degré, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais toujours pas.
Ah oui, c'est
ça. Sac isotherme, vous voyez bien au supermarché quand vous avez acheté vos gnocchis.
C'est le truc, oui, bien sûr, c'est ça.
Eh bien, mais comment vous êtes retrouvé speakerine sur ORTF Auvergne? Vous aviez envie de faire ça ou c'est un peu hasard?
Pas du tout. C'est ça qui est génial, c'est que ma vie et moi, elle s'est faite comme ça. C'est-à-dire que j'habitais en Auvergne, je savais pas trop ce que j'allais faire dans ma vie, puis avec les copains, ces années 70, donc on allait vendre des pansements en porte-à-porte dans toute la France.
Des pansements?
Oui, on était une vingtaine, c'était un peu peace and love.
D'accord.
On louait des maisons, on habitait tous ensemble, on allait vendre nos pansements, on allait jouer au poker le soir, c'était une vie comme ça.
Et donc la télé, comment vous arrivez à la télé?
Eh bien un jour, il y avait Raphaël Gemignani qui était un directeur sportif d'Anctil, d'Eddy Merckx, de tout ça à l'époque, un grand coureur cycliste qui avait des boîtes à Clermont, et un jour on va boire un pot dans sa boîte, et j'arrive avec mon équipe, tous mes copains de pansement, et il dit, et elle, pourquoi tu lui fais pas passer un essai pour la télé? Et le gars il me regarde, il me fait, mais oui, mais venez passer un essai. Je suis venue passer un essai et j'ai été choisie.
Bon endroit au bon moment.
Là, c'est
une belle rencontre.
Alors vous quittez ensuite votre Auvergne natale pour poursuivre votre carrière sur une autre antenne régionale.
Là j'ai pris, non, c'était pas, 3. J'ai pas quitté pour. J'ai quitté parce que je voulais partir et puis que c'était fini. Voilà, j'avais fait mon temps. Je suis allée à Cannes.
Et c'est là que vous rencontrez Bruno Carrette.
Plus tard, parce que j'ai commencé d'abord à faire la télé, après de la radio.
Oui.
Et un jour, il nous manquait un animateur, j'ai fait passer les tests. Mm-hmm. J'ai fait passer des tests à Bruno, j'ai adoré.
Et, oui.
Et puis on a fait connaissance tous les deux, voilà.
Et ça a donné bzzz.
Et ça a donné après, on a commencé par une émission d'humour en radio,
oui.
Et puis après une émission d'humour en télé.
Bzzz, c'était quoi?
Alors bzzz, c'était une émission avec des fausses pubs, parodies, etc. etc.
Oui,
qu'on s'était mis à faire pour faire 3 Marseille.
Mm-hmm. On a un extrait, 86.
B3Z. Ouais.
Do you speak English? Habla espagnol? Deutsch, Fritz, Deutsch.
Ta gueule!
Bzzz. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici l'émission humoristique d'Affaires 3. Bzzz.
La seule émission qui dérègle même votre téléviseur.
Un problème de pellicule ? Pellicole.
Si comme vos amis, vous rêvez d'avoir des pellicules, Pellicole, en application régulière.
Déjà des fausses pubs à l'époque.
Déjà des fausses
pubs
à l'époque,
nulles.
Tout à fait, oui, oui.
Un mot de Bruno Carrette qui nous a quitté trop tôt en 1989.
C'était comme mon frère, Bruno.
Ouais, vous dites que vous pensez encore souvent à lui.
Tout le temps.
J'essayais d'imaginer ce qu'il serait devenu s'il était encore avec nous, en fait.
Bah, je pense qu'il sera un de nos plus grands comédiens français.
Ouais.
Je pense. Ouais. Il était vraiment très très fort et un bon auteur aussi. Il aurait fait une belle carrière, hélas. Voilà.
Donc ça, c'était sur FR3 Méditerranée. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Chantal Lobby?
La Canal a vu cette émission, ça leur a plu. Ils nous ont demandé de monter, venir faire des maquettes à Paris. Chabat, qui travaillait à RMC, qui rêvait de faire une émission d'humour, voulait faire aussi des maquettes. Et puis après, quand ils ont vu les maquettes de Chabat et les nôtres, ils ont dit « mais on ne peut pas trancher, les deux sont bien ». Ils nous ont réunis. On n'était pas tellement d'accord au début parce qu'on ne connaissait pas Alain.
Oui,
on s'est dit « mais qu'est-ce que je suis là ?» On s'est mis autour d'une table, on s'est mis à écrire tous les trois. Et là, on s'est rendu compte que ça fonctionnait.
Ah, le courant est tout de suite passé.
C'est la bonne idée, là.
Ouais. Et après, on a fait venir Dominique.
Alors là, c'est le début de la folle aventure des nuls sur Canal+.
Oui.
On s'en souvient tous, bien sûr. Objectif nul. Les nuls, l'émission. Il y a surtout les faux journaux télévisés que vous co-présentiez, Chantal, avec Alain Chabat. Vous étiez alors une grande journaliste nommée Pénélope Solette.
Lundi, Pénélope, vous avez un homme qui...
Oui, l'homme qui avait pris l'habitude de se secouer le poireau devant les fenêtres de ses voisins. C'est quoi, c'est le chibre entre les barreaux de son balcon. Le détraqué sexuel passera ses vacances derrière d'autres genres de barreaux. D'ailleurs, ne dit-on pas couille au balcon, pack au ballon ?
Merci, Pénélope. Encore un homme qui, encore ?
L'homme qui pétait plus haut que son cul, un peu de merde derrière les oreilles.
Merci, Pénélope.
Elle a honte, quoi, en faisant ça. Mais vraiment, vous n'aviez aucune limite à l'époque.
On n'avait aucune
limite. Mais personne ne lisait
vos sketchs. C'était un vrai plaisir, parce que quand on sort de la télé, de cette première télé de petite speakerine qui a peur, mais même l'autre jour, on m'a montré un truc où je monte un orque polaire, j'ose même pas dire, j'ai mis ma tête dans sa gueule. Ouais. Je dis, j'ai mis ma tête dans sa bouche, à l'époque. Tellement que. Du coup, après, quand on avait possibilité de balancer tout ça, c'était comme des gosses dans une cour de récréation. On vous interdit de dire des gros mots et c'est là qu'on les dit.
Mais est-ce qu'il y avait une validation avant l'antenne ? Est-ce que quelqu'un lisait vos textes ?
Jamais. Non, à part nous.
Déjà, c'est bien.
Sur nos textes, personne ne venait nous dire qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites pas.
Est-ce que les nuls pourraient encore exister aujourd'hui ? Comment on ferait avec les réseaux sociaux ? Par exemple, le sketch Royal Rabbin, on s'en souvient tous, de ce rabbin qui court, façon pub pour croquettes pour chien. Avec les réseaux sociaux, ça passerait plus du tout.
Non, ça passerait plus. Je sais que ça passerait plus, mais il faut être plus fort des fois que les réseaux sociaux. Parce que si effectivement on abandonne, on se tait parce qu'on se fait démolir, on ne fait plus rien. Les gens, même si c'est génial, ils vont démolir. Oui. De toute façon.
Mais vous trouvez que l'humour est préservé ou attaqué par ces réseaux sociaux, d'après vous ? La liberté d'expression dit, aujourd'hui, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut.
Quand vous commencez à dire ce que vous voulez, c'est « mais qui tu es toi, connasse, connard, machin, etc. » Et la totale, on a des listes et des listes entières.
Et vous pensez que ça aurait été plus compliqué pour vous, alors, de faire ce métier d'humoriste aujourd'hui ?
Probablement. Parce qu'il y a eu la télé-réalité, il y a eu tous ces trucs dont vous parliez tout à l'heure. Mais nous, moi, je vous parle d'un temps, même dans les années 80, où la télévision était encore coincée. Mmh. On était très polis, on ne disait jamais merde, on disait M, trois points de suspension, trucs comme ça, mais jamais. Et du coup, quand on est arrivé, qu'on a pu casser tout ça, on s'est amusé. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la télé-réalité, quand on a les images et les dialogues, quand on a tout ce qu'on a, quand on entend tout ce qu'on entend, comment voulez-vous faire une surenchère ?
Aller au-delà ?
Aller au-delà. Si vous allez au-delà, c'est la vulgarité, c'est tout ça, c'est pas drôle.
Alors, on le rappelait tout à l'heure, il y a eu aussi les nuls, l'émission, bien évidemment. À ce jour, vous êtes encore les seuls à avoir réussi à faire ce qu'on appelle un late night, c'est-à-dire un talk show à l'américaine.
On s'était inspiré du Saturday Night Live.
Pour le coup, l'inspiration réussie. Ouais.
Alors, il y avait des stars, des groupes de musiciens, c'était un boulot énorme, on l'imagine. D'ailleurs, en 92, cette émission s'arrête parce que vous êtes épuisé.
On n'en pouvait plus. Bien sûr. On a fait 52 émissions. Il fallait qu'on écrive les sketchs, les fausses pubs avec tout ça.
Donc c'était une très grosse production.
Des journées énormes.
Mais alors là, vous êtes donc rincé en 92, vous décidez de jeter l'éponge. Jamais compris le sens de cette expression d'ailleurs. Et quand vous décidez de tout stopper, vous le vivez comment ? Parce que là, vous avez vécu en autarcie quasiment.
On a fait notre film. Voilà.
Mais si on fait les comptes, en réalité, les nuls, ça n'a pas duré si longtemps que ça, 6 ans ?
Une dizaine d'années.
Mais vous avez conscience que malgré ce faible nombre d'années, moins de 10 ans, vous avez vraiment marqué l'histoire de l'humour en France ?
On a marqué un moment de changement peut-être en France.
Vous avez ouvert la porte.
De changement dans la tête des gens, de décoinçage.
Ah bah ça pour le moins.
Voilà. Oui, c'est ça. Il faut dire qu'il y a des répliques qui ne vieillissent pas, hein, comme celle-ci, signée là encore, on ne s'en lasse pas, Pénélope Solette.
Je sais que vous avez un tampax sur l'oreille.
Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo ?
Ça, on ne s'en lasse pas, c'est devenu un classique en réunion d'ailleurs. Hein.
Mais oui,
on détend une réunion, rien de tel que cette réplique de Pénélope Solette. On ne fera pas mieux, donc on marque une courte pause. A tout de suite dans Refait la télé. Et où, mon frère,
On a l'image.
11h30, 12h30,
on refait la télé sur RTL.